Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 28 avril. On commence tout d'abord avec un petit retour sur ce qui s'est passé à Viol-le-Fort dans la nuit du mercredi à jeudi dernier, donc la veille de l'ouverture du festival CHAP, où il y a donc un chapiteau qui est installé sur l'espace juste à côté du village. Et donc le festival devait ouvrir ses portes pour sa 20e édition le jeudi 23 avril. Les organisateurs et organisatrices ont découvert des tags tout le long de la toile du chapiteau, des tags faisant la promotion de Marine Le Pen ou de Zemmour et des insultes, notamment de sales gauchistes sur le chapiteau. Une plainte contre X a donc été déposée. Des tags qui ont été faits dans la nuit alors que justement des personnes dormaient sous le chapiteau pour surveiller le matériel. Ça a été découvert le jeudi matin et une des organisatrices du CHAP interviewée dans cet article. CHAP, on le rappelle, un festival populaire situé à Viol-le-Fort qui mêle musique, cirque ou spectacle. Et bien donc des tags ont été découverts au petit matin, Marine à l'aide, RN 2025, Salle Gaucho puis la Pisse ou encore même Vive Israël. Le lien, un lien direct avec la programmation du festival qui a lieu encore en ce moment et qui se poursuit jusqu'au 2 mai. Puisque par exemple, ce soir, mardi, est prévue une soirée antifasciste pour un micro ouvert. Et demain, une soirée aura lieu sur le thème de la Palestine avec projection et concert. Voilà, donc un festival qui a toujours été engagé. Visiblement, ça dérange. Je vous le disais, une plainte a été déposée contre X à la gendarmerie. Et le chapiteau a heureusement pu être nettoyé pour une ouverture comme prévu en fanfare le jeudi soir. Et une soirée qui a fait d'ailleurs... carton plein, voilà. Et donc le rendez-vous de ce soir, du 28 avril, c'est Siamo Tutti Antifasciste. C'est une soirée expression libre au Festival CHAP. Vous trouverez le reste de la programmation, d'ailleurs, sur leur site festival-chap.org. Je crois que c'est org.
Siamo Tutti Antifasciste.
Un fasciste de merde. Un fasciste de merde.
On reste dans la thématique de l'antifasciste, d'ailleurs, avec la journée du 1er mai qui arrive... journée historiquement de lutte pour les droits des travailleurs et travailleuses et rebaptisée Fête du Travail par Monsieur Pétain en 41. D'ailleurs, je viens d'apprendre que le muguet était à la base, n'était pas à la base justement la fleur symbole de cette journée, mais c'était l'églantine rouge. Voilà, donc certains collectifs anticapitalistes cherchent à remettre l'églantine rouge au goût du jour. Voilà. Pour ce qui est des rendez-vous, des syndicats, des collectifs féministes et antifascistes, un grand carnaval festif sont prévus sur Montpellier dans cette journée de 1er mai. Donc, le programme de 10h à minuit est relaté dans les colonnes du journal Le Point. La journée commencera à place Albert 1er. Les syndicats défilent ensemble sous une même banderole à partir de 10h30 pour défendre donc le 1er mai. C'est le seul jour férié que la loi interdit formellement de travailler et dont le maintien, vous le savez, est aujourd'hui contesté au Parlement. Dans le cortège, on trouvera par exemple le collectif Montpellier contre l'extrême droite. L'inter-orga féministe de Montpellier appelle à rejoindre ce même cortège avec les slogans contre les guerres coloniales et les rhétoriques guerrières, contre les menaces fascistes qui s'attaquent aux démocraties, à nos libertés et à nos vies, contre l'exploitation des travailleuses pour une paix juste et durable entre les peuples. À noter pour les retardataires, le quartier Généreux, un bar associatif militant de la place Albert 1er, ouvrira dès 10h avec un accueil café croissant et un atelier pancarte. Le départ du cortège donc est prévu entre 10h30 et 11h avec des marionnettes géantes et la coco fanfare à la musique. À 13h, cap sur le parc Clémenceau où se tiendra l'assemblée antifasciste populaire. L'appel pose le diagnostic sans détour. Face à la fascisation accélérée de la société, l'enjeu n'est pas de laisser quelques individus combattre seuls, mais de construire collectivement, au plus près de nos lieux de vie, d'études ou de travail, des solidarités antiracistes, internationalistes et anticapitalistes. Des lycéens, des étudiants, des précaires, des salariés, l'invitation est large. Et toujours pour cette journée du 1er mai sur Montpellier, en fin d'après-midi, le rendez-vous bascule place des Arceaux pour la deuxième édition du RAFU. Un carnaval co-organisé justement par le Quartier Généreux, mais aussi l'association Mama Sound. Au programme, une grande kermesse à partir de 14h30, puis à 17h30, le procès, hein, le jugement de l'hydre du profit sur les marchés, donc le bonhomme carnaval, suivi d'un bûcher à 18h comme il se doit. Et ensuite, une soirée concert avec, dès 19h, Julo, qui fait de la pop-folk, Jay Baletti, de l'afro-rock psychédélique, et un DJ set surprise à 21h30. Après une après-midi de discussion à huis clos, la commission d'enquête a autorisé donc hier la publication du rapport de Charles Alloncle sur l'audiovisuel public. Cette fameuse commission d'enquête sur l'audiovisuel public qui a pas mal fait parler d'elle ces derniers temps avec de nombreux extraits notamment relayés sur YouTube. Insoumis, socialistes et écologistes ont voté contre la publication du rapport. Les macronistes, eux, se sont abstenus. Les députés du RN et de la droite traditionnelle, quant à eux, ont voté pour la publication de ce rapport décrié avant même qu'il soit sorti. Donc le rapport, je vous le dis, a finalement été adopté hein, par 12 voix contre 10. C'était serré. Ce vote favorable à la majorité des 30 membres de la sulfureuse commission d'enquête sur la neutralité et le financement de l'audiovisuel public était en effet une condition nécessaire pour que ce rapport soit rendu public une semaine plus tard. Ça devrait arriver donc le 4 mai prochain. Le rapport est quand même assez long, hein, près de 400 pages, et il rapporte ce qui s'est dit pendant ces interminables et très suivis débats de la commission. On parle quand même de 200 heures d'audition. Les interminables débats ont été ces 6 derniers mois l'occasion pour tout le gotha du paysage médiatique français de se faire cuisiner dans une ambiance de guerre culturelle. Ça, ce sont les commentaires du journal Le Temps. Le rapporteur de la commission d'enquête s'appelle Charles Alloncle. Il est député UDR de l'Hérault et il avait été notamment vivement critiqué pour le ton assez agressif avec lequel il menait ces fameuses auditions. Pour certains, plutôt des interrogatoires musclés. Hein. Plus de 200 personnes y sont passées. C'est Paul Ackermann qui est correspondant en France pour le quotidien suisse Le Temps qui fait cette analyse. Finalement, en tout cas, les préconisations de la commission d'enquête qui vont de la fusion de certaines chaînes au retour à la nomination des dirigeants par l'Élysée, devront être soumises à l'examen des députés avant de revenir, à n'en pas douter, dans le débat à la faveur de la présidentielle de l'an prochain. Et en tout cas, quels qu'aient été les regards sur cette commission, bah c'est ce qu'on appelle toujours l'élargissement de la fenêtre d'Oberton. Même si celle-ci est finalement rejetée dans ses préconisations, les termes, eux, se seront bien infiltrés dans le débat.
Je fais what? D'où ça sort quoi? D'où ça sort?
Je vous emmène maintenant au Mali pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé ce week-end. Vous le savez peut-être, le Mali est plongé dans une situation sécuritaire critique, d'autant plus après cette série d'attaques coordonnées qui ont lieu ce week-end et notamment le samedi à travers tout le pays, par des djihadistes alliés à la rébellion Touareg, et ils se sont attaqués à des positions stratégiques de la junte au pouvoir. Le Mali est en proie, donc, est confronté depuis 2012 à une profonde crise sécuritaire, nourrie notamment par les violences de groupes djihadistes qui sont affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Le pays est donc en proie depuis ce samedi à des attaques coordonnées d'ampleur. C'est une situation sans précédent depuis les événements de mars 2012. À cette époque, des rebelles indépendantistes Touareg, qui avaient été vite évincés par leurs alliés islamistes associés à Al-Qaïda Maghreb islamique, ACMI donc, eh bien, ces rebelles avaient pris le contrôle des villes de Kidal, Gao puis Tombouctou en 2012. Et les attaques ce samedi donc des djihadistes du JNIM, c'est le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, aussi proche d'Al-Qaïda. Ils étaient associés à la rébellion indépendantiste Touareg du FLA, ça c'est le Front de Libération de l'Azawad. Donc ce sont des attaques inédites depuis la prise de pouvoir en 2020 par la junte militaire qui est donc pour l'instant officiellement toujours au pouvoir au Mali. Des échanges ont lieu donc toute la journée de samedi. Dimanche en fin de journée, les choses semblaient avoir retrouvé un petit peu le calme, notamment à Kati, la ville garnison, et le fief de la junte militaire. On est à environ une quinzaine de kilomètres de Bamako, la capitale. Des tirs ont été signalés dans la matinée, donc sur Kati. Le bilan à cette heure-ci, les rebelles du FLA, donc ce groupe séparatiste qui veut le territoire de l'Azawad dans le nord du Mali, revendiquaient le contrôle total de la ville clé de Kidal après des affrontements. Ce groupe a aussi d'ailleurs annoncé être parvenu à un accord pour permettre aux soldats russes de l'Afrika Korps de se retirer de la ville sans combat. L'Afrika Korps, c'est le nom de cette organisation paramilitaire russe contrôlée par Moscou, un peu la suite de ce qu'on appelait les milices Wagner. La ville de Kidal avait été reprise en novembre 2023 par l'armée malienne, appuyée donc par des combattants de ce groupe russe, mettant fin à plus d'une décennie de contrôle par des groupes rebelles. Donc la Russie qui était venue en aide au Mali pour prendre la place, on va dire, de l'occupation de l'armée française, qui a été sommée, elle, de ne plus s'en mêler. Les images vidéo sont d'ailleurs surprenantes par rapport à la présence russe. Une colonne de véhicules transportant ces fameux soldats de l'Afrika Korps quitte la ville de Kidal dimanche matin sans avoir échangé un seul coup de feu. Cette retraite russe est donc d'autant plus significative que la veille, les djihadistes du fameux Jnim ont revendiqué des attaques simultanées dans plusieurs parties du pays, donc aussi avec Bamako, la capitale, et dans ce fameux communiqué, il demandait aux Russes de ne pas s'en mêler afin de préserver toute future coopération. De fait, eh ben, les 2500 militaires russes qui sont présents au Mali, donc membres de l'Afrika Korps, eh bien, sont restés passifs pendant que le régime de Bamako était confronté à la pire crise sécuritaire depuis sa prise de pouvoir il y a 5 ans. Une déconvenue donc pour les putschistes maliens qui avaient chassé l'ancien colonisateur, la France, en 2022, et un véritable échec aussi pour la Russie, qui était accueillie initialement en sauveur, et qui est donc la sommée d'être juste témoin des peut-être changements de pouvoir. La prise de la ville de Kidal, en tout cas, est hautement symbolique. C'est un fief de la rébellion Touareg, qui avait été reconquis en 2023 par l'armée malienne, donc avec l'appui des Russes, 11 ans après avoir été entre les mains des partisans de l'Azawad. C'est le nom que donnent les Touaregs à leur région dont ils revendiquent l'indépendance. Cette victoire, donc acquise peu après le départ des Français et de la force des Nations Unies, avait renforcé à l'époque le prestige du colonel Goïta, Assimi Goïta, qui est le chef de la junte militaire, et donc avoir perdu cette ville est une grosse défaite symbolique. En plus de cela, donc le FLA, le Front de Libération de l'Azawad, revendique avoir pris le contrôle d'autres positions, notamment dans la région de Gao, au nord du pays. Les combats ont cessé depuis, mais les rebelles se trouvent toujours aux abords de la ville de Gao. Selon un bilan annoncé par le gouvernement, les combats depuis samedi ont en tout fait 16 blessés civils et militaires et des dégâts matériels limités. Le nombre de victimes pourrait malgré tout s'alourdir, notamment chez les civils. Et surtout la mort qui a été qui a porté le plus atteinte, on va dire, à la légitimité du régime. Un gros coup dur, c'est que le ministre de la Défense, Sadio Camara, a été tué lors de ces attaques samedi. Des attaques qualifiées de terroristes par le gouvernement. Un véhicule piégé conduit par un kamikaze a ciblé en effet sa maison à Kati. Et ils ont donc réussi à le blesser. Il est mort des suites de ses blessures, transporté à l'hôpital. Alors, qui détient aujourd'hui le pouvoir au Mali ? Le général Assimi Goïta, qui est le chef de la junte, n'a toujours pas été vu, n'a pas pris la parole depuis le début des hostilités. Une source sécuritaire au Mali indiquait qu'il avait été exfiltré de la ville de Kati dans la journée de samedi et qu'il se trouvait en lieu sûr. Mais plusieurs observateurs s'étonnent de son silence jusqu'à présent. Le Jnim, donc, qui lutte depuis des années contre les militaires au pouvoir à Bamako, lui a programmé sa victoire samedi soir et déclare de sa part assumer la responsabilité pour des assauts qui ont visé donc samedi le siège du président malien, le siège du ministre de la Défense Sadio Camara, qui est donc décédé, mais également l'aéroport international de Bamako ou les sites militaires dans la ville de Kati. La situation est encore donc un petit peu floue, elle risque d'évoluer encore. Le risque est double, hein, que la région continue de tomber dans la violence, puisque tout d'abord au Mali déjà, qui risque d'être finalement un pays morcelé entre des territoires tenus par les indépendantistes Touareg au nord et les différents groupes djihadistes qui se disputent le territoire. Et ensuite au niveau régional, car le Jnim, à la manœuvre au Mali, est un groupe, donc je vous le disais, affilié à Al-Qaïda et qui a des visées au niveau régional, notamment au Niger ou au Burkina Faso, qui font partie avec le Mali de l'Alliance des États du Sahel et qui sont peut-être à leur tour dans le viseur en cas de prise de Bamako. Et au-delà, ça pourrait aussi s'étendre au-delà des pays côtiers qui sont eux déjà menacés par des incursions djihadistes. On part maintenant en Inde où la canicule touche le pays toujours de plus en plus tôt et on parle de température extrême, hein, il faisait 43 degrés à New Delhi. Le 27 avril, le thermomètre a donc affiché encore une fois 43 degrés Celsius en dépassant la barre des 40 pour le cinquième jour d'affilée. Ce mois d'avril marque à présent le début des vagues de chaleur dans le pays le plus peuplé de la planète. L'Inde est fortement dépendante du charbon et c'est aussi le troisième plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde. En 2024, déjà près d'un tiers des journées de canicule que connaissait l'Inde étaient dues au changement climatique, selon en tout cas les scientifiques et le rapport publié dans The Lancet. Cette année-là, donc en 2024, un record national avait été enregistré dans la capitale de l'Inde, New Delhi. C'était le 29 mai, avec la température, accrochez-vous, de 52,9 degrés Celsius, quasiment 53. Et il est rappelé dans ce petit article que près de la moitié de la population mondiale connaîtra des températures extrêmement chaudes en 2050. Là aussi, c'est une étude scientifique qui a été publiée en janvier dans la revue Nature Sustainability qui le rappelle. En Italie, 18 loups ont été retrouvés morts en une semaine. Ça se passe dans le parc national des Abruzzes, du Latium et de Molise. Et c'est des chiffres alarmants qui ont été rapportés par le WWF, section italienne. Cette découverte macabre remonte donc au 22 avril. La dernière découverte en tout cas en date, c'est celle où trois cadavres de loups ont été découverts. C'est à côté du village de Pescaceroli, dans une zone protégée. Quelques jours auparavant, quatre autres loups, ainsi que plusieurs renards et une buse, avaient eux aussi été retrouvés morts dans le secteur. Et un autre loup également signalé près de Barrea. Les premières analyses toxicologiques menées sur les corps révèlent la présence de substances chimiques, notamment des résidus de pesticides agricoles. Donc les enquêteurs privilégient la piste de l'empoisonnement, bien qu'aucun appât ou objet empoisonné n'ait été retrouvé à ce stade de l'enquête. C'est ce qu'explique en tout cas le parc national des Abruzzes. Une enquête a été ouverte par le parquet de Sulmona afin d'établir les circonstances exactes de ces décès, notamment savoir s'ils sont accidentels ou criminels. En tout cas, ces événements suscitent une vive inquiétude en raison de leurs conséquences potentielles sur la biodiversité locale. Le WWF alerte notamment sur les risques pour des espèces menacées, comme l'ours brun marsicain. Et sur le plan politique, le ministre italien de l'Environnement a condamné, lui, des actes graves contre une espèce protégée. Il faut rappeler qu'en Italie, le loup bénéficie d'un statut d'espèce spécifiquement protégée et que selon l'Observatoire italien du loup, 34 individus sont déjà morts en janvier et en février 2026. On termine ces infos avec déjà quelque chose que j'ai découvert à travers cet article de reporter. Et à peine découvert, visiblement, l'initiative est peut-être menacée. On est en France et on va parler de partager de l'électricité produite par le photovoltaïque, de l'électricité solaire. C'est un projet, donc ce partage d'électricité solaire entre voisins, qui cartonne en France et qui fait beaucoup de petits. Malheureusement, un décret pourrait peut-être tuer dans l'œuf des dizaines de projets alternatifs qui commencent à voir le jour. Ce qui serait donc un coup de massue pour de l'autoconsommation collective. Alors l'idée, elle est simple, presque trop simple pour finalement ne pas inquiéter visiblement. L'idée, c'est de partager de l'électricité solaire ou parfois hydraulique entre voisins. Donc ça peut être à l'échelle d'un quartier, d'un village ou d'une zone d'activité. Ça s'appelle une boucle d'autoconsommation collective, ACC. Ça permet donc de produire de l'électricité localement et de la consommer juste à côté, à quelques kilomètres à peine. Puisque vous le savez, l'électricité est très difficile à stocker et aussi à déplacer, ce qui est en fait un des principaux obstacles, notamment à toutes ces énergies renouvelables qui sont aussi intermittentes. Il n'y a pas toujours du soleil, il n'y a pas toujours du vent, et donc l'électricité produite est difficile à quantifier à l'avance et aussi à faire voyager puisque les câbles sont des grandes sources de pertes. Donc voilà, cette ACC semble être effectivement une très bonne idée, sauf qu'un projet de décret qui vient de passer en catimini vient changer les règles du jeu et risque de tuer dans l'œuf donc des dizaines de projets alternatifs, alors je vous le disais que ce système justement cartonne en France. En effet, ces boucles d'autoconsommation collective, elles redonnent un peu de prise aux habitants sur un système qui est par essence centralisé et depuis longtemps verrouillé. notamment avec la gestion des prix du marché, etc. Et donc, ces petites alternatives se diffusent comme une petite traînée de poudre. Fin 2025, on comptait plus de 1600 opérations d'autoconsommation collective actives en France, ce qui faisait une hausse de plus de 120% pour la seule année 2025. Ces boucles sont d'autant plus plébiscitées qu'elles sont un outil social, hein. Par exemple, l'association des centrales villageoises qui parle à son échelle d'un outil citoyen et territorial qui favorise l'appropriation locale des enjeux énergétiques. En effet, au sein de ces boucles d'autoconsommation collective, on peut se répartir l'électricité comme on veut. Les participants peuvent en effet choisir de prioriser une école, d'intégrer de nouveaux participants ou pas, ou même carrément d'inventer des kilowattheures suspendus. Vous savez, comme les cafés suspendus quand on laisse un petit euro pour remplir une boîte pour ceux qu'on auront besoin plus tard. Ça peut être par exemple une offre d'énergie pour des ménages précaires. C'est donc, on est sur de la micropolitique, hein, micropolitique de l'énergie, au niveau local, souple et évolutive, presque artisanale, et donc qui visiblement semble un peu échapper aux griffes du système du marché. Donc en supprimant cette souplesse de choix et de consommation et de qui est dedans, le projet de décret dont on parle ici menace l'existence même de ces boucles, puisqu'aujourd'hui, on peut, sur quoi le décret va jouer, c'est qu'aujourd'hui, dans cette boucle d'ACC, on peut ajuster après coup le dispositif selon qui a réellement consommé quoi, histoire de coller vraiment au réel et donc changer ce qui a été prévu. Donc pas pour tricher sur les électrons, hein, ceux-ci ont déjà été consommés, mais pour essayer de répartir équitablement la production, qui par nature, je vous le disais, va varier au gré des nuages et des usages. Et bien désormais, avec ce décret, tout devra être fixé à l'avance, à savoir les consommations et les productions, ça c'est quand même assez loufoque. Le décret a été porté par la DGEC, la Direction Générale de l'Énergie et du Climat, et donc il doit être bientôt signé par la ministre de l'Énergie, Maude Bréjon. C'est un décret réglementaire qui va en effet imposer à ces boucles de figer à l'avance les clés de répartition jusqu'à J-2, comme si le soleil ou les consommations des uns des autres pouvaient respecter un tel planning. Officiellement, ce décret il a été pondu pour tenter d'éviter des arbitrages opportunistes. Certains opérateurs pourraient en effet être tentés d'optimiser a posteriori la répartition en fonction des prix du marché, donc d'aller vers là où c'est le plus offrant. Et donc ça fait effectivement des distorsions de concurrence. Donc la filière électrique reconnaît que ces pratiques peuvent exister, mais pour l'instant, il n'y a aucun chiffre qui permettrait de quantifier l'ampleur de cette fraude supposée. Et donc c'est un peu étonnant de vouloir tout de suite légiférer dessus. Un acteur de l'énergie citoyenne, justement, qui a été interviewé dans cet article de reporter, explique que c'est comme réformer un système en plein essor, sans étude d'impact solide, et pour tenter de corriger un problème qu'on mesure à peine. Une sorte de médecine préventive, donc, mais à coup de hache, qui verrait surtout à faire disparaître, en fait, toutes ces initiatives. Donc, sur le terrain, pour les acteurs, le contresens est total. C'est par exemple ce que dit Bruno Spiquel, qui fait partie de la coopérative Plein Soleil, et qui s'apprêtait à lancer donc une boucle dans l'Yonne. Si ce texte est appliqué, dit-il, il empêche d'adapter finement les usages à la réalité des conditions du réseau et de la météo. 2 ans de montage pour cette coopérative, hein, de la concertation locale, des outils développés pour traduire les décisions collectives en allocation d'électricité, qui vont être transmises à Enedis, et donc soudain une règle qui change et qui peut voir tout s'effondrer. Il s'agit d'une modification radicale des règles du jeu en cours de route, déplore cette coopérative. Peut-être le signe que nos institutions n'ont pas pris la mesure de la diversité de ces fameuses ACC. D'ailleurs, la Direction Générale de l'Énergie et du Climat n'a pas répondu aux sollicitations des journalistes de reporters. Et comme souvent en manière énergétique, termine cet article, la ligne de fracture n'est pas technique, elle est politique. Faut-il encadrer un modèle alternatif au risque de l'étouffer ou accepter une part d'imprévu pour laisser une énergie une énergie plus locale, plus souple et plus vivante. Et voilà, chers amis, c'est là-dessus, sur ces réflexions, que je vous laisse. On se donne rendez-vous jeudi, bien évidemment, pour d'autres nouvelles du monde. Et il y aura aussi quelques rendez-vous en studio des Escapadez-vous, puisque la saison culturelle bat son plein dans notre beau territoire. Donc on a pas mal d'assos et de festivals à vous proposer et à accueillir ici dans les locaux de Radio Escapade. D'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne pas avoir raté éventuellement des discussions intéressantes ou des programmations, il y a évidemment l'agenda culturel, mais je vous invite aussi à aller faire un petit tour sur l'onglet de podcast Escapade et vous. Vous allez voir, ça bouge pas mal en ce moment. Allez, générique et puis après, de la musique.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.